Bonjour chères auditrices, chers auditeurs. D'abord, nous nous excusons de ne pas avoir pu diffuser notre émission la semaine dernière, simplement parce que j'étais malade. Donc voilà, la grippe qui court ces jours-ci ne m'a pas épargné. Nous remercions en même temps tous ceux et celles qui nous ont contactés pour connaître la raison. En revanche, voilà, nous y sommes à notre antenne préférée, une fenêtre ouverte sur notre cher public et qui dénonce à haute voix les injustices, les abus de pouvoir dans notre société contemporaine. Avec vous ce matin au micro à Jazitouni, un militant du mouvement Action Justice, militant pour les droits de la personne, pour la justice sociale, pour l'égalité de tous les citoyennes et citoyens devant les lois, pour la liberté de l'opinion et de la démocratie, nous sommes mandatés principalement pour faire la surveillance des institutions judiciaires. Il est de votre devoir et de notre devoir aussi de vous informer, chères auditrices, chers auditeurs, de l'autre côté de la médaille, puisque les gouvernements n'admettent pas l'existence de l'injustice, de l'inégalité et des abus de pouvoir dans notre société, alors que nous vivons au quotidien ces phénomènes fortement regrettables. Les citoyens ordinaires sont des cibles potentielles, beaucoup plus faciles que d'autres. La vulnérabilité de certains citoyens qui n'ont pas les grands moyens pour se défendre, pour faire face à un système très complexe, où la parole du plus faible n'est pas retenue. L'inégalité a définitivement creusé un fossé énorme entre les citoyens, entre les classes. Voilà pourquoi la classe dirigeante a toute la difficulté à saisir les réalités des citoyens. Ce n'est ni les officiers de l'État, ni le personnel du barreau, et encore moins les avocats ou les juges qui sont exposés aux abus de pouvoir et aux injustices. Parlons pas des politiciens ou de leurs familles, et non pas non plus de ceux qui ont le pouvoir d'être respectés par le statut de la richesse. Ici, c'est le citoyen ordinaire qui prend des proportions majeures dans le nombre de la population. C'est celui qui reste bouche bée devant une injustice, celui qui tombe malade, qui perd confiance, qui lutte jusqu'à la fin mais en vain. Combien ceux qui se sont suicidés parce qu'ils n'arrivent plus à supporter les injustices. Nous parlons maintenant de réouvrir les hôpitaux psychiatriques. Personne n'a voulu chercher la raison pour laquelle des centaines et des centaines de personnes ont perdu ce qui ont le plus cher, l'esprit et la mémoire. Donc ils ont préféré d'exister autant qu'au corps, sans la faculté de la mémoire, un signe, un acte, une parole troublante, une expression et peut-être la continuité d'un combat qui n'a pas eu la chance d'obtenir justice. Vous voyez dans quelle situation nous sommes rendus. Le taux le plus élevé de suicide au monde, c'est justement ici au Québec. Pourquoi ? Parce que personne n'a d'intérêt d'aller fouiller dans cette boîte noire qui fait peur. Mais imaginez-vous si le monde baisse les bras et accepte l'évolution de l'injustice dans une société exemplaire, théoriquement, comme la nôtre, un faux modèle attirant de loin les autres sociétés à suivre le pas, mais dans la réalité, le résultat est décevant. Quel est notre rôle, nous les citoyens ? Ne pensez surtout pas que vous êtes à l'abri de tout ça. Je vous jure que l'injustice frappe comme de la foudre à tout moment et à n'importe quel lieu. Voilà pourquoi notre solidarité peut nous conforter, nous encourager et nous envoie de temps en temps un signe d'espoir. Ne se découragez pas. Avant hier, nous avons tous assisté au spectacle humiliant Marc Bellemare, l'ancien ministre de la Justice qui a tenté avec une grande entêté de libérer sa conscience en signe de bon citoyen. Ça a pris du temps, c'est vrai, on s'en fiche. L'important, c'est que nous l'avons tous cru, parce que derrière ces dénonciations, Maître Bellemare n'avait pas le moins d'intérêt, sauf celui de dévoiler une réalité qui n'est pas surprenante à nos yeux. Maître Bellemare nous a dit d'ailleurs la vérité, mais toujours dans un système complexe où la justice est dérobée par les rusés, des malins, des filous. Les scènes se répètent même au plus haut niveau. On croit toujours le plus fort. Maître Bestarache avait à trancher entre deux témoignages où la preuve est délibérément absente. Ça devient une question de crédibilité. Qui dit vrai, qui dit faux? Ici, c'est la parole du plus fort qui va prendre le dessus. Et je suis plus que certain qu'au fond de lui, Maître Bestarache gardez doute sérieux dans ce dossier. Mais il n'avait aucun choix d'épargner la face du chef de l'État. Ce que nous intéresse finalement dans tout ça, c'est notre position, nous le peuple, parce que Maître Bellemare a vidé son sac devant nous pour qu'on reste témoin de cette réalité. Voilà pourquoi il avait choisi cette plateforme qui est le public comme condition nécessaire pour lever le voile. Quelle est notre position aujourd'hui devant ce citoyen? Est-ce que nous allons mordre l'hameçon que le Premier ministre Jean Charest nous a lancé pour dissimuler d'autres scandales encore plus graves au lieu et à son gouvernement qui sont impliqués directement? Bref, allons-nous dans notre solidarité continuer à croire et à encourager Maître Bellemare, ce citoyen qui reflète au fond notre cause, la réalité amère de notre société, la justice des plus puissants? Écoutez, Monsieur Maître Bellemare, la plus grande preuve de lâcheté de notre Premier ministre est de vouloir vous poursuivre en justice parce que la justice lui appartient. Un chef d'État qui poursuit un citoyen qu'il a dénoncé à tort ou à raison demeure, à notre avis, la preuve suffisante et incontestable de sa culpabilité et de la légère de son poids. Finalement, pour nous, Maître Bestarache était utilisé comme une pauvre marionnette, ce qui lui enlève tout notre respect. Nous disons à notre cher Premier ministre Jean Charest, les grands s'agissent pas de la manière. Vous avez épuisé la totalité de vos munitions et votre adversaire se porte encore mieux que jamais. À nos yeux, vous répétez, ou plutôt même, vous rapetissez de taille chaque jour davantage et vous avez maintenant, s'il vous reste le minimum de dignité, qu'est-ce que vous devrez faire? Chères auditrices, chers auditeurs, avant de passer à notre thème musical, il serait peut-être mieux de vous signaler que nous avons ce matin avec nous au studio quatre jeunes Québécois qui sont venus nous parler de leur combat. Un combat commun et infatigable. Ces gens-là désirent obtenir votre soutien. Allons-nous réellement les soutenir? Dans plusieurs forums publics, les Canadiens et surtout les Québécois ont exprimé avec force leur insatisfaction à l'égard de leurs institutions et les pratiques politiques. Un des messages dominants, c'est que les participants ont perdu confiance à la fois dans le régime et dans leurs dirigeants politiques. Ils ne pensent pas que leurs élus, surtout au fédéral, gouvernent selon la volonté du peuple, ni que les citoyens aient actuellement les moyens de remédier à cela. Sur le plateau en face de moi, Patrick Scott, 19 ans, de militantisme pour les droits de la personne. Un jeune à qui j'ai beaucoup de respect, il suffit de l'entendre dire « je ne supporte pas de le voir » ou de voir le Canada et encore moins le Québec dans cette voie qui semble trahir les valeurs de toutes les Québécoises et Québécois. Un homme qui n'a rien d'autre dans sa vie que de maintenir le cap vers une justice sociale souhaitable. Il va souffrir certainement, mais qu'est-ce que vous voulez? Nous ne sommes pas faits tous pareils. J'ai aussi devant moi Marc Laramé, 15 ans d'activisme pour l'égalité de la richesse. Mathieu Piriard, plusieurs années de militantisme, notamment dans le mouvement étudiant. Et finalement, Monsieur Éric Sylvestre, un humaniste qui cherche à travers l'éducation des solutions et un réveil à la génération future. Voilà, donc restez à l'écoute après notre thème musical. Nous cédons la parole à nos invités d'aujourd'hui.
C'est une émission formidable sur les problèmes de société. Coup des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table, à condition d'être masqués. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique, vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique, pour nous aider à retrouver. Tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés, ce soir je vous lance un appel, vous seul pouvez nous renseigner. Quel bas-fond, la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer. À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société, une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la une. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Entre qui saigne et qui charcute, entre bourreau et torturé, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé. Entre un para et un felouse, entre un violeur et des violés, et puis, comme une apothéose, entre SS et déportés. Ce soir, après la roue de la fortune, un baf obscène est à la lune.
Rebonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Nos invités aujourd'hui sont des arrêtés des G20. Vous savez tous comme moi que lors de ce sommet qui a eu lieu à Toronto en juin 2010, il y avait au-delà de 1200 personnes qui ont été arrêtées par les autorités policières. Donc des arrestations arbitraires, des perquisitions sans mandat aucune et encore moins de motifs raisonnables. Un incident dramatique qui a bouleversé des milliers de personnes et qui a eu un écho fracassant au-delà de nos frontières. Depuis, le Canada, modèle de la démocratie, a perdu ce statut honorable, faute de notre gouvernement actuel. Savez-vous quel était le crime de ces arrêtés? C'est d'avoir justement été allés sur la place publique afin d'exprimer leur désaccord et leur inquiétude face aux décisions prises par les gouvernements. Alors si on vous enlève le droit de s'exprimer, qu'est-ce qui vous restera à votre avis? Je commence par vous, Patrick Scott. Ces arrestations abusives et massives lors du sommet en juin 2010, est-ce qu'ils vous ont fait penser à une certaine période dramatique et peut-être semblable dans l'histoire du Québec?
Oui, en fait, je trouve que ça me faisait beaucoup rappeler à la crise d'octobre en 70, au niveau que les parallèles étaient les mêmes, sauf que à cette époque, il y a eu la loi des mesures de guerre qui a été divulguée. Tout le monde est au courant. C'était dans les journaux. Les médias étaient au courant. Mais nous, on s'en va dans un cadre du G20, manifester notre droit de citoyen.
Tout
qu'on,
à fait. Ouais.
Qu'on est en opposition à cet événement-là pour différentes raisons. Mais c'était les mêmes mesures, les mêmes pratiques. C'est-à-dire dans le sens que il y avait autant de corps policiers, de départements de police et tout ça, qu'on était dans la même situation. On s'aurait cru en crise d'octobre. On croyait que effectivement là, il y avait aucune possibilité de manifester son désaccord, qu'on était encadré constamment. Exemple, quand on est arrivé vendredi, les policiers sur place avaient fait un cortège d'ordre. C'était des bicyclettes qui nous avaient enfermés dans une cage. Une cage qui roule, on s'entend là, des bicyclettes ça roule là.
Ça au cours de la manifestation?
Oui, au cours de la manifestation. Ouais, ouais, ouais. Donc, on pouvait ni rentrer, ni sortir de ce cortège de sécurité.
Vous étiez déjà prisonnier, j'imagine.
Oui, on était déjà prisonnier. La preuve de tout ça, quand je suis descendu de l'autobus avec les étudiants au milieu de la gauche, je sors de l'autobus, qu'est-ce que je vois? C'est un policier avec une caméra en train de me filmer.
C'est... Mais vous-même ou toute la, ben, toute la plupart des...
Ben, en fait,
la,
ils filmaient
la première ligne, quoi.
Tous les gens qui descendaient de l'autobus.
Oh my God.
Tous les gens qui mettaient le pied dans la ville de Toronto étaient filmés systématiquement.
Dès le départ.
On était identifiés.
La résistance était très bien attendue, disons.
Ouais, écoutez, je pense pour ceux qui ont suivi le cas de les événements du G20, ont compris que cet environnement-là allait être contrôlé sur tout l'aspect au niveau revendicatif. On était carrément encadré constamment. Puis c'est ça qu'on se pose la question. C'est nous, on parle de la criminalisation de la dissidence, dans le sens que un dissident, c'est quelqu'un qui est en opposition.
Tout okay? à fait.
Puis en quelque part, si on est traité déjà en partant comme étant un criminel ou quelqu'un qui peut commettre un acte illégal, ben c'est de nous criminaliser en partant. Vous comprenez?
Ouais.
Et puis qu'à partir de ce moment-là, sur les lieux. Il y a aussi d'autres événements qui s'est produits qu'on s'est dit, coudonc, notre droit de citoyen, il est où, là? Hein? On peut pas prendre la rue, manifester
de façon pacifique
ouais. ou de, tu sais, je dis, en fait, d'exercer son droit de citoyen juste dans le but au cas où qu'on commettrait quelque chose de grave, on est dans un encadrement total, puis on nous traite carrément comme des criminels du début à la fin. Mais je pense pour ceux qui ont suivi le cas du G20 au niveau de l'incarcération, les arrestations et tout ça, il y a eu beaucoup de comment dire, des vices de procédure, des abus de pouvoir et tout ça, qu'on se pose la question, nous. On se pose la question, écoutez, on a-tu le droit d'être en opposition au Canada actuellement? Est-ce qu'on a le droit de remettre en question les gouvernements qui nous dirigent?
Ouais.
Avec le nouvel ordre mondial qui est en train de s'installer.
Surtout sous Harper.
Oui, sous Harper avec son gouvernement. Tout le monde sait que c'est un gouvernement qui est loin d'être progressiste. Là.
Tout à fait. On a goûté à la médecine des libéraux également, par contre.
Oui, je sais, mais on s'entend que... il fait se faire, les conservateurs, là.
Mais Patrick, vous avez quand même comparé à la crise d'octobre 70, et ça, c'est grave.
Ben oui, exact. Dire. Ben, pour ceux qui sont au courant des chiffres, c'est que, crise d'octobre, il y a eu 400 arrestations.
Tout à fait, oui.
Là, au plan historique, là, il n'y a jamais eu autant d'arrestations qu'en rapport au G20, 1200 arrestations. Ça veut dire quoi, ça? Imagine, en situation de crise politique nationale, 400 arrestations,
ouais.
Un événement dans une journée, ben en fait, ça a duré 3 jours, là, mais un événement, 1200 arrestations. Pour moi, il est là, le message.
Tout à fait. Et vous pensez que c'est vraiment, ils sont tous des prisonniers politiques, quoi?
Pour moi, oui. En fait, nous, on a créé une organisation qui est l'ODPP, l'Organisme de défense des prisonniers politiques.
Après l'événement?
Oui, après l'événement.
Ouais.
Et puis, nous...
Votre organisme, c'est quoi?
Ben, c'est
l'Organisme de défense des prisonniers politiques?
Oui, c'est ça.
Oui.
Parce que, où j'en viens, c'est que pour nous, on considère que chaque personne qui est arrêtée dans un cadre démocratique qui revendique ses droits de citoyen, puis qu'on l'arrête de façon préventive, pour nous, c'est un prisonnier politique, quel qu'il soit. Donc, c'est ça qu'on s'est posé comme question. Tu sais, c'est comme, nous, on veut exercer notre droit de manifester.
Ouais.
Puis là, les tangentes qu'on voit, qui se dessinent, c'est des structures pour encore mieux encadrer les manifestants pour qu'ils exercent le moins possible leur droit démocratique de manifester et ensuite de les criminaliser. On a vu, comme dans le cas du G20, un acharnement de la couronne contre nous. Ils nous voulaient pas. Les policiers sur place, ils nous disaient, on était venus ici pour détruire leur ville. Écoutez, il y a eu quoi, 30 000 ou 35 000 manifestants?
Oui.
Je veux dire, est-ce qu'il y a eu 35 000 personnes qui sont venues dans l'intention de détruire leur ville?
Ouf.
Tu sais, je veux dire, c'est d'un ridicule.
Mais est-ce que, je sais pas à qui je peux poser la question parmi vous. Le manifeste du Front des Libérations, justement, nous apprend qu'il n'était pas un mouvement d'agression, mais la réponse à une agression.
Exactement.
De quelle manière vous allez répondre à cette agression? Je parle de Mathieu, peut-être Mathieu ou Marc?
Ben, nous, la raison pour laquelle on a créé ce mouvement-là, la raison d'être, c'est qu'on considère que nos droits ont été brimés.
Oui.
Moi, personnellement, je vais vous parler de ce que moi j'ai vécu.
Oui.
Je vais essayer de faire ça rapidement. Premièrement, j'ai été arrêté selon le Work Protection Act,
oui.
qui fait en sorte qu'un officier de police, un agent répressionnaire, peut m'arrêter devant un building XY, puis m'arrêter, me contrôler, puis là, tout le monde était suspect, donc il arrêtait tout le monde qui passait devant l'édifice, et puis finalement, tout le monde était suspect. Donc, l'officier de police il a brimé mes droits parce qu'il m'a demandé de fouiller mon sac à dos. Je lui ai demandé si j'étais en état d'arrestation. Il m'a répondu qu'il était oui, j'étais en état d'arrestation, mais il a refusé de me lire mes droits à ce moment-là.
Oui.
Par la suite, il a fouillé mon grand sac à dos de plein air avec plein de stocks dedans, puis il a dit ça, ça, ça et ça, ce sont des armes. Bon, mes armes, OK, c'est une paire de pinces, un Westcott 10 cm de long, que je savais même pas que c'était dans mon sac. J'ai un sifflet en métal et une paire de ciseaux comme arme. Puis par la suite, je considère qu'ils ont brimé mes droits parce que justement, mon arrestation est illégale, ma fouille est illégale. Après ça, okay, j'ai passé 3 jours dans les conditions que tout le monde a décrit de façon horrible. Je reviendrai pas vraiment là-dessus, à part qu'ils ont pris mes empreintes digitales de façon absolument illégale. Je suis même pas coupable d'absolument rien. Puis, on m'a injecté quelque chose dans le bras aussi, malgré le fait que je sois vraiment contre le fait qu'on m'injecte quelque chose dans le bras. Ça s'appelle un tuberculosis test, un test contre la tuberculose, TV test. Puis par la suite, après ça, je suis sorti, évidemment. Puis par la suite, ce que j'ai constaté, c'est l'acharnement de la couronne. La première fois, on m'a présenté là, que je me suis présenté à Toronto, que j'ai donc payé pour me rendre là-bas, si vous voulez. Puis la première fois, on m'a offert un deal, mais entre vous et moi, c'est un deal, mais pour la couronne. C'est la couronne qui veut se laver les mains.
C'est quel deal que vous avez eu?
C'était garder la paix pendant une année, puis payer 25$ d'amende à une charité, si vous voulez. Les autres disent c'est une charité, mais j'ai le choix entre 10 organismes d'origine ontarienne.
Mais est-ce que vous avez accepté, normalement?
Moi, j'ai refusé catégoriquement.
Tout à fait, ben oui.
Premièrement, je suis coupable d'absolument rien. J'ai rien fait de mal. J'ai juste exercé mon droit constitutionnel. Puis c'est justement, donc pourquoi je devrais payer une amende ou encore pourquoi je devrais garder la paix si de toute façon la bonté de mes pensées s'est arrêtée avant le code pénal.
Mais ça c'était et ça c'est le cas de centaines et centaines de personnes là, j'imagine.
Oui.
Mais dans le fond ce qu'on a vu, c'est que le gouvernement ontarien, la police ontarienne, puis nous on pense aussi le gouvernement du Canada a voulu mater le militantisme, a voulu dire à nous les militants,
exactement,
peu importe l'allégeance pour laquelle on milite, ils ont voulu nous dire cesser de militer, on veut plus ça dans notre démocratie. C'est carrément ça le message.
C'est le message qui était clair, hein, pour vous.
Et jamais comme Jules Grey, il disait une espèce de...
Patrick, oui?
Il disait une espèce de démocratie totalitaire, en fait. Ouais, ouais. C'est comme, vous avez un droit de vote, mais restez chez vous.
Ouais, mais ce que nous autres, on a constaté également, c'est que c'est la couronne qui essaie de se laver les mains. Oui, on a arrêté plein de gens, mais on va essayer que ce soit eux qui paraissent mal et non la couronne. Monsieur Vincent Paris, le persécuteur en chef de la couronne, il s'est vraiment acharné contre moi. La deuxième fois que je suis passé pour me faire faire un deal, mais finalement, il m'a offert paye seulement 100$ à une donation de ton choix, mais pas l'organisme pour lequel je militais à l'époque, qui était le regroupement des arrêtés du G20.
Oui.
Ce que j'ai également refusé de toute part. Puis par la suite, la troisième fois que je me représente à Toronto, mais ce qu'ils m'offrent, finalement, c'est de payer 100$ finalement, ils ont lâché des accusations contre moi, mais ils les ont retenues contre moi pendant une année. Donc, ils ont une année pour nous poursuivre pour ça.
C'est toujours, malheureusement, toujours le cas des centaines et centaines de personnes. Je poserai peut-être la question à Éric Sylvestre qui, le manifeste du Front, toujours, moi, je reviens toujours, ce manifeste-là, ce fameux manifeste. Il nous apprend aussi que la démocratie a toujours été côté riche. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous?
J'en pense que il y a de plus en plus de gens qui sont en désaccord avec la démocratie fonctionne, que les élections amènent des réponses et puis que les dirigeants qui sont en place sont vraiment là pour régler les problèmes des gens. Il y a de plus en plus de manifestations, puis je pense que les gens qui s'opposent puis qui prennent la rue démontrent que l'écart entre les riches puis les pauvres, les politiques fiscales font juste accentuer, donner de plus en plus de pauvres qui, eux, ont moins de liberté. Là, ça nous coûte 3$ maintenant ici, le transport en commun.
Tandis que
selon mon opinion, ça devrait être gratuit. Alors, il y a plein d'exemples comme ça. Fait que ça fait, selon moi, beaucoup les baisses de liberté. Les gens sont mécontents. Et puis, ça augmente les raisons, les différentes situations de prendre la rue. Puis qu'on devrait, comme là, il y a le gaz de schiste. Il faut prendre la rue pour ça. Il y en a plein. Puis il faut mobiliser les gens.
Ce qui est intéressant de remarquer avec le parallèle avec la crise d'octobre, c'est que pendant la crise d'octobre, il y avait quelque chose qui se passait. Il y avait un manifeste dans les nouvelles. Il y a quand même eu un ministre kidnappé, un ambassadeur économique en kidnappé. je veux pas excuser le gouvernement canadien à cette époque-là non plus, mais je pense qu'il y avait quand même plus matière à agir que maintenant, où nous, personnellement, on a été arrêtés dans un gymnase quand on dormait. On a été arrêtés absolument pour rien. Les policiers arrêtaient, kidnappaient tout le monde dans la ville lors du G20. Donc, c'est ça qui est un peu intéressant.
C'est un coup préparé, hein? C'est tout. C'est
on voit que c'est un coup préparé, ouais. Puis on voit que c'est démesuré complètement, surtout quand on se compare à 1970.
En fait, c'est même jusque dans les procès où on se rend compte cet acharnement-là, ce cirque médiatique, puis ce cirque judiciaire, c'est qu'ils n'ont jamais cherché à trouver si on était coupable ou non, innocent ou non. Ils voulaient la tête des gens.
Ils voulaient agir avant, puis...
Ils voulaient les criminaliser à tout prix. Juste le fait de me rendre à mon procès, il y avait des policiers, un encadrement policier. On était filmés, fichés pendant notre procès.
Ben, encore aujourd'hui, on ne peut pas aller aux États-Unis.
Tu sais, on est barrés.
Vous ne pouvez pas aller aux États-Unis.
Évidemment, nos dossiers... ont été envoyés aux douanes états-uniennes et tout ça. Mais tu sais, on sait bien que même si les accusations ont tombé contre nous, ça reste très longtemps dans les banques de données, ces choses-là.
Oui, mais c'est ça.
C'est une façon de nous mater.
Hein. J'ai même été fiché sur Interpol.
Donc, aux États-Unis, il n'y a pas le pardon, de toute façon.
Non, c'est ça. Eux autres, ils ne reconnaissent pas le pardon. Puis deux, quand tu arrives à la frontière, eux, ils te disent toujours que c'est un privilège et c'est pas un droit de rentrer chez nous. Donc, quand tu es un militant reconnu, tu es barré des États-Unis.
Donc, c'est une autre façon pour eux de nous mater par la bande, finalement.
Mais nous, on dit on veut pas laisser ces choses-là arriver. On veut combattre ces choses-là. Puis on veut favoriser aussi le combat dans le sens pour justement donner notre organisme est là pour son but, c'est donner un support aux gens qui manifestent, les gens qui sont sur le terrain, pour pas qu'ils se sentent seuls dans cette situation.
OK, écoutez, on va faire une pause publicitaire et on va revenir avec nos invités d'aujourd'hui.
Ces gens-là, on a l'impression qu'ils sont au-dessus, et que nous, on est toujours victimes. Justice n'est pas faite pour nous seuls. Et ces gens-là, on a l'impression qu'ils sont au-dessus, et que nous, on est toujours victimes. Justice, réveille-toi. Ma justice, réveille-toi. Justice n'est pas fait pour nous seuls. Et ces gens-là, on a l'impression qu'ils sont au-dessus, et que nous, on est toujours victimes. Justice n'est pas fait pour nous seuls. Et ces gens-là, on a l'impression qu'ils sont au-dessus, et que nous, on est toujours victimes. Justice, réveille-toi. Ma justice, réveille-toi. L'actualité m'oblige à te parler.
Cherchez-vous un travail immédiatement? Travailglobal.com. Appliquez aujourd'hui, travaillez demain. Travailglobal.com ou 514-666-1562. Secrétaire, journalier, manufacturier. Voyez les emplois sur travailglobal.com ou 514-666-1562.
Est-ce lundi soir ou mardi matin? La ville semble dormir et pourtant, savais-tu qu'entre 3 et 6 heures AM, l'espace s'ouvre sur des univers fantastiques et jouissifs? Des légendes oubliées, des vortex encore plus explorés, parfois même un peu tordus. Piloté par Alain Caron, l'émission L'Académie attise déjà ta curiosité. Il te faut l'écouter en direct ou en podcast à radiocentraville.com.
Pour être bien informé sur ce qui se passe en Haïti et partout dans le monde, branchez-vous sur Magazine Créole, 102.3 FM, Radio Centre-Ville, tous les dimanches, 8h PM.
Magazine Créole, une émission chic, chic, choc. nouvelles locales, nouvelles nationales, nouvelles d'Haïti et tous les points chauds qui ont marqué l'actualité avec Robinson Élisée et Reynold Alexandre.
Amis camarades, rendez-vous cassé.
Wow! Faut pas manquer les dimanches soirs à seulement 12$ à Ski Mont-Saint-Bruno à compter de 17h durant tout l'hiver pour du ski ou de la planche à neige. Ski Mont-Saint-Bruno!
Depuis 35 ans, nous donnons le micro aux Montréalais et Montréalaises afin qu'ils se rencontrent. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
Rebonjour, rebonjour, chers auditrices, chers auditeurs. Donc, on continuera notre entrevue avec nos invités d'aujourd'hui. Et la question, je la pose à un des quatre. Je reviens toujours selon le manifeste du Front de Libération. Nous vivons dans une société terrorisée. Pensez-vous que c'est le cas?
Ben, moi, je pense que c'est le cas.
C'est Marc, oui.
Parce que justement, de Toronto a subi de la répression policière au moins comme un mois avant le sommet de Toronto. Puis, puis par la suite, finalement, c'est ça, c'est qu'on est terrorisé soit que, en ayant subi ce qu'on a vécu, soit que des gens qui vont s'enfermer dans leur maison puis ne pas en sortir. Il y en a d'autres qui vont l'extérioriser, qui vont aller en parler à tout le monde. Est-ce qu'on vit dans une société qui est terrorisée? Ben, je pense que oui.
Moi, on me décourageait d'y aller personnellement.
Tout à fait.
Parce qu'on
me
disait, tu sais, qu'est-ce qui t'attend là-bas? Puis, en fait, c'était un coup de chance ou de malchance de se faire arrêter. Il suffisait d'être en mauvaise place, dans la mauvaise rue, au mauvais moment. Et puis,
il suffisait de mettre les pieds à Toronto cette journée-là pour
c'est encore
comprendre
plus grave. Il suffit de descendre de l'autobus et vous êtes.
Mais les gens sont. Ils m'avaient déjà prévenu, va pas là-bas, tu sais. Ils écoutent le message, finalement, d'en haut, qui eux autres nous disent venez pas manifester, on vous attend. Puis avec l'ombudsman qui a eu lieu, qui a sorti son rapport en Ontario, lui, il est venu dire que c'était prouvé qu'on était vraiment attendu par la police, que la loi secrète, c'est une loi secrète.
Vous êtes en train de le dire, vous étiez déjà avisé d'avance.
Non, mais c'est justement qu'ils ont fait exprès de ne pas le dévoiler.
Oui.
Fait que l'ombudsman était vraiment fâché parce que lui, il disait, écoutez, vous leur avez carrément tendu un piège aux gens en les disant, venez-vous-en, on va faire votre parade. Mais c'était déjà prévu à l'avance qu'on n'avait pas de droits, qu'en fait les droits civils étaient suspendus, puis personne n'était au courant de ça. Alors, ses propres mots, c'était de dire que c'était un piège.
D'ailleurs, Patrick, tu voulais dire quelque chose?
D'ailleurs, justement, il y avait le fameux périmètre de sécurité qui était la clôture. Ils ont divulgué la loi qui était cette fameuse loi qui était si on était à plus de 15 mètres de la clôture, il y avait le droit de nous arrêter. Mais en fait, c'était 15 mètres à l'intérieur du périmètre, pas à l'extérieur. Ils ont créé une espèce de climat de psychose dans les manifestants pour empêcher les gens de s'approcher du périmètre de sécurité, comme à Québec. Quand ils ont fait des arrestations la veille ou quelques jours avant le sommet des Amériques, d'une cellule de résistance qui était le groupe Germinal, il y a eu une espèce de voile, une espèce de terreur, genre, qui s'est installée pour décourager le plus possible de gens de se présenter.
Mais moi, par rapport à la terreur, j'ai le goût d'intervenir d'une autre façon. Moi, j'ai l'impression que c'est les institutions qui sont terrorisées. J'ai l'impression que les institutions libérales sont terrorisées plus maintenant qu'aujourd'hui à l'idée de gens qui ne croient pas dans le marché, à l'idée de gens qui sont à gauche. J'ai l'impression que ils ont tellement foi en le système capitaliste que tout ce qui déroge un peu à ça les terrorise, donc ils réagissent énormément trop fort. C'est mon impression.
Tout à fait.
Eux, ils pensent qu'on est allé là pour détruire la ville de Toronto, et moi, je suis allé à Toronto pour pointer du doigt le fascisme international.
C'est ça, exactement.
J'allais là pour démontrer que, finalement, ils s'en foutent du monde comme moi, là, finalement, là, puis ils l'ont très bien démontré, puis je pense qu'à ce niveau-là, c'est une mission accomplie. Sauf que c'est pas en m'arrêtant, en me mettant dans une cage ou en me poursuivant que vous allez changer mes idéologies ou ce que je pense. Bien au contraire, vous m'avez vraiment convaincu qu'on vit vraiment dans un système qui est... En tout cas, que j'ai de la misère à comprendre présentement.
Mais j'aimais beaucoup le terme démocratie totalitaire à Patrick.
Oui.
En fait, on est dans une démocratie libérale, une démocratie qui est contrôlée par le marché.
Par le capitalisme.
Donc, c'est ça, finalement. On est contraint d'accepter ce système économique-là et social-là.
Tu l'aimes pas, mais on va te l'imposer.
On va te mater si tu l'aimes pas, c'est ça.
Mais Marc,
Mathieu,
excuse-moi, quel genre de programme vous préparer
pour de l'ODPP. L'organisme propose différentes facettes pour aider tous les militants. Hein. C'est vraiment, nous, on veut aider à toutes les luttes progressistes, et puis on veut défendre tout humain, peu importe sa nation, peu importe sa religion. Nous, ce qu'on fait, c'est que, principalement, on est sur le terrain quand il y a des manifs sociales. Notre travail d'observation en est un énorme parmi nos motifs d'existence. On a peut-être même idée de faire une petite recension annuelle de la répression policière, étant donné qu'on va avoir été là à presque toutes les manifs. On s'engage à avoir un soutien personnel des arrêtés quand ils sont arrêtés. Par exemple, nous-mêmes, au G20, nos parents, notre famille, nos amis ne savaient pas ce qui se passait avec nous. Donc, l'ODPP s'engagerait à faire un suivi avec l'entourage des arrêtés. On a aussi beaucoup de contacts médiatiques qui peuvent être utiles aux arrêtés. On offre un soutien psychologique lors d'arrestation aux arrêtés et leurs amis. On a des avocats qui ne sont pas embauchés strictement par l'ODPP, mais qui sont en lien avec nous, puis qui sont prêts ponctuellement à défendre des arrêtés. On fait l'accompagnement personnel lors du processus judiciaire suite à l'arrestation. Puis on essaie de lutter aux côtés de l'arrêté pour qu'il y ait des réparations, comme des recours collectifs, ces choses-là. On veut aider à lutter contre la criminalisation de la dissidence, ici et ailleurs. Ça commence par le Québec, mais ça ira un jour ailleurs aussi.
C'est parfait, excellent. Peut-être que je poserai la question à Marc ou à Eric. Comment vous décrivez les conditions de votre emprisonnement lors des G20? Et pensez-vous qu'il y a des manifestants qui ne vont jamais vouloir revivre de telles situations? Autrement dit, le gouvernement conservateur a réussi à décourager et finalement à démotiver les manifestants.
Ouais. Ben, en fait, pour votre excusez-moi, pour votre deuxième question, je suis certain que ça a découragé beaucoup de personnes.
Ça a découragé?
Ah, j'en suis convaincu parce que
moi, je sentais le contraire.
Hein, ben, ça m'a vraiment convaincu que je devais vraiment continuer, parce que s'ils me font une répression à ce point-là, il doit avoir une raison en arrière de ça. Puis moi, de toute façon, je fais de la survie. Il y a des trucs, je fais de la survie d'été comme d'hiver. Je veux dire, c'est pas en m'enfermant comme ça dans des conditions vraiment pittoresques que je vois vraiment changer mon point de vue.
Mais c'est traumatisant, tu es en train de dire, c'est ça?
Ouais, on s'est ramassé dans des cages avec l'air climatisé, pas à manger, pas de téléphone, on peut pas avertir la famille. Puis on s'est tous retrouvés. Puis là, c'était tous des citadins. Il n'y a pas de criminels là-dedans. Ouais, c'était des gens qui étaient habillés, qui sortaient d'un bar, étaient habillés en Coupe du Monde. Ils ont juste été pris dans le rafle. Des gens qui ont été pris pendant la pluie. Puis, puis tout le monde, leur histoire, tout le monde avait une espèce d'histoire à bric-à-brac. Alors,
on s'est fait un paquet d'amis.
On s'est tous retrouvés avec des cages, la police tout partout, des micros. Chaque cellule avait un micro, puis une caméra, puis on est tous comme, mais voyons donc, c'est quoi qu'ils font? On est déjà au courant que ça va pas bien parce qu'on est dans les rues. C'est quoi l'idée de nous prendre puis nous montrer que c'est 10 fois pire? Fait que ça en a maté forcément plusieurs. Moi, ça m'a comme ouvert les yeux de dire, je peux pas retourner dans le vrai monde puis travailler tous les jours normal.
À ce point.
Puis oublier, faire comme si de rien n'était arrivé.
Puis il est arrivé des choses graves, là. Moi, j'ai été envoyé en ambulance à l'urgence parce qu'on me donnait pas mes médicaments. Il y avait des diabétiques dans nos cages qui n'avaient pas accès à leur insuline. Un vieux monsieur de 83 ans, je me souviens, est diabétique, qui parlait pas un traître mot d'anglais, qu'on aidait pas, qu'on donnait pas son insuline. C'est des atteintes extrêmement graves.
Tout à fait. Je reviens toujours peut-être à Eric Sylvestre. Vous avez aussi vécu, comme vous venez de dire, le drame, ce drame-là. Et vous êtes déterminé aujourd'hui, plus qu'avant, je souhaite, de continuer à militer pour les droits fondamentaux des citoyens et, entre autres, être en désaccord contre certaines idées politiques. Le problème que nous avons actuellement, c'est que le peuple n'est pas écouté par les dirigeants. C'est-à-dire, sa voix n'est pas considérée. Et je cite l'exemple, par exemple, la majorité de la population canadienne, plus de 75% de la population québécoise notamment, on dit par exemple non au déploiement militaire en Afghanistan, et pourtant le Canada se trouve toujours en guerre. À votre avis, est-ce que c'est une nouvelle forme de dictature ou comment vous la...
Oui, quasiment. Parce que le gouvernement se fait prendre à plusieurs occasions, c'est à soit prendre, à voter des lois Bayon ou à prendre un milliard, deux milliards à cet endroit-là sans le dire à personne, sans le voter nulle part et puis l'injecter dans la sécurité, dans l'armée, dans le déploiement. On est en Afghanistan, personne ne peut rien contre ça.
Ouais.
Nos droits, ce qu'on a voté est pas du tout représenté. D'ailleurs, les gouvernements élus sont élus minoritaires partout par d'une poignée de sièges. Et puis, c'est ensuite de ça se prendre ces sièges-là, ces quelques sièges-là qu'on a réussi à avoir pour gagner, pour imposer une philosophie puis une loi qui respecte pas à peu près du tout personne au Canada. Là, on s'en va dans un pays ou dans une situation que personne veut aller. On a l'impression que tout le monde, finalement, a les mains dans le dos, puis on s'en va quelque part avec les yeux bouchés. Bon,
puis on voit les armes de la démocratie. Par exemple, juste dans le cas de Bellemare, quand ça fait pas l'affaire des gouvernants, ben on les poursuit.
C'est ça. C'est une grande lâcheté. Peut-être que je poserai la question à Patrick. Pensez-vous que s'il y aura demain un changement dans le gouvernement, est-ce que pensez-vous que les choses vont se redresser, se restabiliser, quoi?
Ben, en fait, moi, personnellement, non.
Vous pensez que non, ça reste toujours la même?
Pour moi, quelque part, en politique, en fait, la volonté politique du changement, elle l'est pas, là. Ouais.
Quoi, ça t'es en train de nous dire que nous sommes tous condamnés à vivre?
Non, mais peut-être pas pour l'éternité, mais tout ce que je dis, c'est que, pour le moment, tout ce qu'on voit...
Un petit espoir, quoi.
Ouais, je sais. Mais tout ce qu'on voit, c'est que c'est des opportunistes qui, en quelque part, ils militent pour leur propre chef. Mais c'est sûr que, bon... Il y a la possibilité que des courants de pensée s'installent, mais pour le moment, moi, tout ce que je vois, c'est Charest, c'est décourageant.
Moi, ce que je pense à propos de ça, c'est que la résistance n'est pas télédiffusée. En voulant dire que c'est pas en regardant la radio, Radio-Canada ou TVA que vous allez vraiment vous informer. Je pense que la population a un désir de s'informer à propos de ça. Je trouve qu'il y a des outils qui sont là en place pour que la résistance deviennent plus fortes, si vous voulez. Aujourd'hui, Internet est une super bonne source d'information puisque justement, vous pouvez chercher exactement l'information que vous souhaitez.
Parce qu'il y a des outils qui sont forts aussi pour que tout continue d'aller bien dans l'huile, puis que les gens s'opposent pas, se révoltent pas, pour que tout aille bien.
Le statu quo est très fort.
Il faut que le statu quo soit maintenu, puis pour ça, c'est la télé, c'est le YouTube.
C'est quand même c'est assez malheureux aussi. Si on prend l'exemple, par exemple, de l'actualité, la Tunisie, par exemple, 23 ans, ils vivent sur une dictature comme ça. Et les opinions, tout ça n'a rien changé. Il fallait que la population sorte à l'extérieur et c'est ça qui a fait changer les choses. Ouais. Est-ce que pensez-vous que c'est le cas, on arrive à un moment donné au Canada, arrivé à ce stade-là?
Je pense pas que ça vienne de nous, parce que malheureusement, on aurait toutes les raisons de sortir en bien des endroits, mais il faut que les gens aient la faculté de se choquer puis de s'opposer à une idée puis de l'avoir au cœur
puis de rester groupé
dans ça puis de se grouper de rejoindre d'autres gens qui pensent comme eux et puis petit à petit c'est comme ça que l'opposition se forme et puis que on vit avec sa conscience. C'est ça qui est bien aussi, c'est pas d'oublier lire le journal, ah c'est ça qui se passe dans le monde, mais moi je peux rien, ça me dérange pas, je sais pas quoi, on referme le journal puis on essaie de penser à sa journée d'aller travailler tandis qu'on fait partie on vit en communauté, ça marche pas là.
Marc, oui.
Monsieur le président français a dit qu'on ne pourrait pas s'opposer au nouvel ordre mondial, mais on voit très bien que c'est pas vrai. Il y a des gens qui vont toujours s'opposer à ce qui se passe présentement. Nous, on est le peuple en général est contre un nouvel ordre mondial qui soit par l'industrie pour l'industrie. Nous, ce qu'on veut, c'est un nouvel ordre mondial fait par le peuple pour le peuple. Ce qu'on veut, c'est l'égalité entre les êtres humains, qu'ils soient d'origine ethnique ou de n'importe où, qu'ils soient un homme ou une femme, qu'ils soient gay ou straight ou c'est pas important.
Mais là, le bas blesse, c'est la conscientisation à la chose politique, justement, ce qui n'est plus valorisé aujourd'hui, qui l'a déjà plus été, du moins. Aujourd'hui, penser à la chose politique, c'est ringard, c'est... On veut pas s'en occuper, mais ça donne libre cours à des exactions comme il y a eu au G20 à Toronto aussi.
En fait,
oui, Patrick, peut-être qu'on va faire une petite pause musicale, je reviens avec vous, ça ne vous dérange pas?
Pas trop.
Merci bien.
Avec de simples mots, on a le pouvoir de tout détruire. Et avec les mêmes mots, on a le pouvoir de tout décrire. Les mots prônent la haine, mais ils chantent l'amour. Les mots n'ont peur de rien, car les mots ont de la bravoure. Les mots ont de la colère, mais ils ont une douceur. On se forge un caractère quand on chante nos douleurs. C'est grâce à l'écriture que je surmonte mes épreuves. Mot par mot, je suis en train de bâtir mon œuvre. Les mots ont du pouvoir, ils sont audacieux. Et on s'inspire d'eux, car ils sont courageux. Les mots de la tristesse, les mots d'une noblesse, ils se collent à ma vie, car les mots sont modestes. Les mots me grugent de l'intérieur, ils me font voyager en attendant un monde meilleur. C'est grâce aux mots que je raconte mon histoire. Les mots peuvent me guérir, les mots me donnent de l'espoir. Les mots chantent les drames, les mots viennent de l'âme. Les mots n'ont peur de rien, car les mots sont une arme.
Les mots chantent les drames, les mots viennent de l'âme. Les mots n'ont peur de rien, car les mots sont une arme.
Les mots chantent les drames, les mots viennent de l'âme. Les mots n'ont peur de rien, car les mots sont une arme.
Les mots chantent les drames, les mots viennent de l'âme. Les mots n'ont peur de rien, car les mots sont une arme.
Y'a les mots qui instruisent, détruisent, des mots qui méprisent, des mots qu'on utilise quand on veut se faire la bise. Y'a les mots qui prédisent, s'enlisent, les mots qu'on banalise, les mots qui nous divisent et les mots qui nous brisent. Y'a les mots qui s'entendent, qui se répandent, les mots qui prétendent, les mots qui nous offensent, c'est les mots plus tendres. Y'a les mots qu'on prononce avec prudence, c'est les mots qu'on lance, les mots qui nous dénoncent, c'est ceux qui nous défendent. Y'a les mots qui blessent, qui fessent, les mots qui protestent, les mots d'ivresse remplis de promesses, qui blessent, grotesques. Les mots plus doux, les mots plus sales, les mots plus fous, les mots plus joyeux, les mots qui se cachent dans un journal, les mots qui parlent, les mots qui partent, scandale, les mots plus graves que ceux qu'on grave sur une pierre tombale, les mots qui pleurent, les mots du mal. Les mots du cœur, le mot final, les maudits mots, les maudits mal. Les mots chantent les drames, les mots viennent de l'âme. Les mots n'ont peur de rien, car les mots sont une arme.
Les mots chantent les drames, les mots viennent de l'âme. Les mots n'ont peur de rien, car les mots sont une arme.
Les mots chantent les drames, les mots viennent de l'âme. Les mots n'ont peur de rien, car les mots sont une arme.
Les mots chantent les drames, les mots viennent de l'âme.
Les mots sont bohèmes, ils prônent le blasphème, ils chantent nos problèmes, et les mots récitent nos poèmes. Les mots ont une devise, les mots ont plusieurs thèmes, et ils sauvent des vies, car ils donnent de l'oxygène. Les mots marquent le temps, racontent le présent, les mots s'envolent et nous éclairent en tombant. Les mots sont optimistes, ils pensent nos cicatrices, les mots nous font peur, car ils sont réalistes. Ils sont plutôt espiègles, les mots n'ont pas de règles, ils racontent nos vérités, car les mots sont intègres. Les mots valent mille images, s'expriment dans plusieurs langues. Mes mots donnent la vie, car mes phrases sont vivantes. Ce qui m'inspire, c'est la vie que je respire. Les peines comme les sourires, la beauté de mes souvenirs. Et les mots m'ont appris qu'on se doit d'être sincère. Quand les mots sortent du cœur, y'a pas que nous qu'on libère. Les mots chantent les drames, les mots viennent de l'âme. Les mots n'ont peur de rien, car les mots sont une arme.
Les mots chantent les drames, les mots viennent de l'âme. Les mots n'ont peur de rien, car les mots sont une arme.
Les mots chantent les drames, les mots viennent de l'âme. Les mots n'ont peur de rien, car les mots sont une arme.
Les mots chantent les drames, les mots viennent de l'âme. Les mots n'ont peur de rien, car les mots sont une arme.
Rebonjour, chers auditrices, chers auditeurs. Donc, au fond, vous et vos idées, c'est vraiment défendre la démocratie, hein, c'est ça.
Oui.
Patrick, tu as voulu dire, je vous ai coupé, que tu as voulu dire quelque chose.
Mais en fait, c'est un peu le problème.
Les droits et libertés.
Oui, c'est ça. Un peu le problème dans la société actuelle, c'est qu'il y a un désintéressement de la politique qui se fait sentir. Puis on a l'impression que, justement, il y a comme un fossé entre la vérité qui se passe, puis qu'est-ce que les médias rapportent. Exemple, ils nous ont voulu nous faire passer pour toutes des personnes dangereuses dans la période du G20. Je veux dire, en quelque part, non, on exerce nos droits de citoyen, puis on va là dans un cadre où c'est dans un cadre où politiquement on trouve qu'on a raison. Bref, juste pour dire que des fois c'est on se retrouve dans des situations où on est obligé de justifier ben là tu t'es fait arrêter, c'est-tu peut-être parce que t'as quelque chose à te reprocher. Non, j'ai été arrêté de façon innocente, là. Je veux dire, j'exerçais mon droit à moi comme tout le monde. J'ai pas été là dans un cadre où j'avais l'intention de commettre quelque chose. Et la difficulté que les gens communs comprennent notre combat, des fois, il peut être difficile.
Exactement, c'est ça. Oui.
Moi, ça m'a, tout ça, ça m'a causé plusieurs traumatismes, traumatismes personnels, traumatismes politiques, en fait. Oui. Où est-ce que tu dis, moi, je veux bien voter, mais maintenant, qu'est-ce qui se fait si, mettons, je suis pas d'accord? Mettons que j'ai, mettons, A puis B, ça marche pas, puis que moi, je veux pas. Ouais. Ben là, j'ai vu c'est quoi la réponse, finalement, leur réponse. Et puis, suite à ça, moi, personnellement, l'ODPP, c'est ma réponse à l'emprisonnement, c'est ma sorte de réparation de l'âme pour me ressortir puis faire de quoi pour vivre. Fait que puis il va tout le temps avoir plus de d'autres prisonniers politiques, il va tout le temps avoir d'autres réparations, d'autres manifs. Et puis malheureusement maintenant on a tous développé une expertise maintenant dans les réparations.
C'est vraiment une bonne.
Qu'est-ce qu'on a la motivation de le faire également, pas nécessairement seulement qu'au Canada, mais également au plan international, parce qu'il y a des prisonniers politiques un peu partout. Il y en a aux États-Unis, il y en a au Mexique, il y en a au Pérou.
Les causes de défense, c'est pas ça qui manque.
Il y en a en Palestine, il y en a.
Ah, parce que moi ce qui me dérange, j'entends maintenant Mathieu qui me disait nous avons pas forcément l'appui du peuple. Moi, ça me dérange quand j'entends ça.
Mais c'est nous le peuple aussi. Là.
Non, mais en fait, est-ce qu'ils sont mal informés?
Oui, c'est ça. Moi, je pense que c'est une question d'information. Je pense qu'on leur présente tout le temps sous un angle négatif, on le manifestant. Exemple, Radio-Canada, RDI, ils présentent contestation, puis ils mettent toujours le côté noir du contestataire. C'est ça. Il y a une manipulation au niveau de l'information qui donne pas. Pour les gens qui ont envie de s'investir socialement et politiquement, il y a comme pas une image positive de ça. C'est comme en fait, c'est comme
les mettre des bonnes. C'est des briseurs. Une fois que t'es un arrêté politique, c'est parce que t'as détruit, fait quelque chose de mal, t'es un méchant.
C'est ça.
Est-ce que le peuple est préoccupé par d'autres choses, ou il est aveugle, il est naïf, ou qu'est-ce qui se passe là? Pourtant, la réalité, elle est quand même en face.
Il est conscient, mais il peut pas faire les nouvelles lui-même, je pense. C'est là que Mathieu disait d'aller sur Internet, puis de faire ses propres recherches, puis d'aller plus loin.
Mais je pense qu'il y a un problème aussi au-delà de ça. C'est toute la réflexion. On dirait que toute la réflexion rhétorique, politique, sociale, on dirait que non seulement c'est plus à la mode, comme ça l'a plus été peut-être dans les années 60-70 notamment.
Tu manifestais ou quoi?
Non, mais juste la réflexion politique. À donner libre cours à cette activité-là, le débat politique, parler de la politique, parler de nos gouvernants, parler de des valeurs qui
l'exercice sont sous-tendent
de l'Occident aussi. Mais c'est non seulement c'est plus à la mode, mais c'est écraser cette volonté-là de quelques-uns de parler de politique. Mmh. On dirait que pour certains, tout a déjà été fait, puis pour certains, on a atteint le système parfait, tu sais.
Ça, vous êtes en train de dire écarter la participation du citoyen, quoi, ces entendus.
Ben, malheureusement, oui.
Ouais, au niveau médiatique, c'est sûr que les médias nous dépeignent ou nous dénaturent, si vous voulez, en nous décrivant comme des gens qui sont violents ou agressifs ou quoi que ce soit. Mais moi, à Toronto, ce que j'ai vu là, par le peuple, là, c'est des gens qui m'ont accueilli partout où je suis allé, des gens qui m'ont nourri, des gens qui m'ont accueilli chez eux, là, autant pendant le G20 qu'après le G20, pendant que j'étais en procédure juridique. Donc, moi, la résistance que j'ai vue, c'est justement du monde de toutes les origines ethniques visibles, puis de toutes les nationalités, puis de toutes les classes sociales différentes.
Et ça, c'est intéressant ce qu'il nous dit.
C'est ça qui me donne espoir, moi, à la résistance. Voilà. C'est en voyant à quel point les gens travaillent ensemble pour arriver à une chose qui est commune, finalement. Là. C'est ça qui me motive à continuer à faire ça.
Je suis en train de nous dire qu'il y a une fracture entre les citoyens et l'État ou
les institutions,
les dirigeants. Oui, Patrick, tu as voulu dire quelque chose?
C'est ça, c'est toute la culture de la contestation, la culture au niveau de toute notre histoire qui est portée sur les luttes sociales, tout ça, et comme tassé dans l'oubli, dans une espèce d'obscurantisme, là, je veux dire. Et c'est ça qui a construit notre pays, c'est ça qui a construit notre culte, notre situation actuelle. Puis c'est quand même, on dirait, il y a eu comme une grosse déception à partir des fins des années 80 avec les gens au niveau, ils ont comme désillusionné, tu sais, ils ont été comme déçus au plan politique, tout ce qui s'est passé. Alors, ils ont comme, on dirait, démissionné pour certains. Mais par contre, moi personnellement, je veux dire, en rapport au G20, tout ce qu'ils m'ont fait subir, je me dis, coudonc, ils nous voient comme des gens dangereux ou quoi? C'est comme,
sais, je pense que j'avais raison d'y être, puis je pense que j'ai encore raison d'y être.
Ah, mais moi, aujourd'hui, je les remercie de m'avoir arrêté dans le sens.
Je les remercierais pas, mais.
Montré... Non, mais oui, parce qu'ils m'ont vraiment montré qu'est-ce que c'était le système, puis je le sais encore bien plus aujourd'hui. C'est sûr que c'était pas une étape vraiment sympathique, puis non, je suis pas content qu'ils l'aient fait. Mais merci de l'avoir fait, parce qu'il n'y a rien de mieux que qu'est-ce qu'ils nous font subir présentement pour faire lever la résistance sociale, si vous voulez, l'opposition générale.
En fait, si leur intention c'était de nous briser, honnêtement, pour beaucoup, c'était l'effet contraire.
Mais pour beaucoup aussi, malheureusement, ça a été l'effet escompté aussi, il faut le dire.
Mais on espère qu'on va retrouver nos frères anticapitalistes, puis tout le monde qui était là-bas. J'espère que personne perd confiance que finalement, c'est le peuple qui va...
Parce que malheureusement, quand on est revenu de Toronto, dans la première Assemblée générale qu'on a eue de tous les arrêtés, la première à revenir de Toronto, il y avait plusieurs personnes qui avaient été en prison avec nous, qu'on ne trouvait pas dans cette assemblée-là, ni dans les autres futures. Donc, on voit que ça a quand même fonctionné pour une frange des militants arrêtés.
Mais la répression, elle fonctionne. Mais, à quelque part, je veux dire, quand tu vois toute cette injustice-là, puis que ça te fait réagir, ben, t'as envie de t'investir pour pouvoir changer ce fait-là, en fait.
Je pense que la résistance est vraiment loin de s'essouffler. Même à Toronto, il y a Toronto Mobilize qui arrête pas, qui continue à faire parler d'eux. On les salue. On salue également la résistance, peu importe où elle se trouve. Puis on est prêt à travailler avec tous les groupes de différents groupes, il n'y a aucun problème.
Mais moi je me dis aussi, heureusement que vous êtes là, vous existez, sinon c'est une catastrophe quoi. Vous dire, Patrick, peut-être nous dire un dernier mot, lancer un dernier mot pour votre site et tout.
Oui, ben c'est ça, on a un site internet que vous pouvez consulter qui est pour l'ODPP.
Le site exactement, c'est odpp.webs.com. Juste une petite annonce aussi, comme ça, un grand happening d'ouverture pour l'ODPP le 5 mars au bar Les Catacombes. Ça va être une soirée festive avec des groupes de musique et puis quelques speeches aussi pour l'ouverture de l'organisme.
On vous attend, amenez votre famille, amenez tout le monde.
Ouais, venez nombreux.
Éric, peut-être un dernier mot, rapidement comme ça.
Ben merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous avez donnée aujourd'hui.
Merci, oui.
C'est très apprécié.
Donc voilà, et malheureusement, c'est tout ce qui nous reste de notre temps, de l'émission. J'aimerais remercier mes invités d'aujourd'hui, Patrick Scott, Mathieu Périard, Marc Laramé, Éric Sylvestre, quatre jeunes militants engagés en première ligne. Nous saluons leur dévouement et leur combat. Je remercie bien Madame Marion Languet, technicienne au son. Il ne faut pas oublier non plus Radio Centre-Ville, 102.3 FM, et qui nous ont permis de diffuser notre émission pour que la parole de l'autre existe. Merci à vous en particulier, chers auditrices, chers auditeurs, d'avoir suivi notre émission. Et à moi, je vous dis à vendredi prochain, à la même heure, à bientôt.
Cesser de crier ce qui est injuste. Regarde notre réalité et les mensonges qu'on nous incruste. J'ai pas la force de comprendre toute cette discrimination. J'ai la force et le courage de crier pour ma nation. Il est temps qu'on avance, qu'on se rassemble pour la cause. Qu'on arrête de se détruire par l'alcool et la coke. Qu'on leur prouve qu'on est des hommes, qu'on est fiers de qui on est. S'ils nous traitent de sauvages, on s'en fout, on est des guerriers. On n'a pas encore saisi toute leur mentalité. Car pour vous dire la vérité, ils ont essayé de nous déraciner. Ce que je trouve le plus lourd, c'est le visage des aînés. Ceux qui portent l'histoire et l'espoir des nouveaux-nés. Je viens briser le silence, la honte et la gêne d'un peuple invisible, comme dirait Desjardins. Je parle encore de nos souffrances et dans mon sang, dans mes gènes. Comme nous a dit Kerry James, c'est le cri des indigènes. Je viens vous dire qu'on s'en sort, mais les blessures sont immenses. Car une partie de notre histoire est enfouie sous le silence. Et je n'arrive toujours pas à croire qu'ici on nous ignore. Et quand ils en font des pays, ils ont préféré nous voir morts. Le gouvernement s'est excusé pour l'histoire des pensionnats. Ils ont signé des chèques pour nous prouver leurs échecs. Je peux vous dire que le...
Mark's Notebook. Avec Stan Asher et copilote Davin Ryle, votre départ vous attend chaque samedi matin à destination de la scène locale de théâtre anglais avec escale au film, au festival culturel, le calendrier des activités culturelles et également les critiques de ce qui se joue sur les scènes locales. Tout le monde à bord les samedis de 11h30 à 12h30 avec Art's Notebook.
Radio Centre-Ville vous invite à faire connaître davantage vos produits et services. Vous êtes en affaires et aimeriez cibler certaines communautés de Montréal? Rien de plus simple. Nous vous aiderons dans la conception de votre message publicitaire et dans la stratégie à adopter pour vous adresser aux communautés que vous aimeriez rejoindre. Nous leur parlerons de vous dans leur langue maternelle. Ce sera donc personnalisé et fort sympathique. Radio Centre-Ville est à but non lucratif et nos tarifs publicitaires sont tout petits. Pour de l'information sur votre publicité à Radio Centre-Ville, rejoignez Daniel au 514-495-8836 495-8836 ou à publicité@radiocentreville.com. Au plaisir de parler de vous sur Radio Centre-Ville.
Retrouvez ce rythme trépidant tous les samedis de 16h à 17h au cours de l'émission Ambiance Tropicale à Radio Centre-Ville 102,3 FM. Animation, blagues, entrevues, informations artistiques et humour font également partie du menu qui vous est servi par Monsieur Ambiance. Oh oui, c'est tout un rendez-vous. Oh oui.
Depuis le 27 janvier 1975, Radio Centre-Ville représente la diversité de Montréal. Nous donnons le micro pour permettre aux Montréalais et Montréalaises de se rencontrer. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.